Henri Poincaré, Science et méthode, livre 3, chapitre 1. La mécanique et le radio. Introduction. Les principes généraux de la dynamique qui ont depuis Newton servi de fondement à la science physique et qui paraissaient inébranlables sont-ils sur le point d'être abandonnés ou tout au moins d'être profondément modifiés? C'est ce que bien des personnes se demandent depuis quelques années. La découverte du radium aurait, d'après elles, renversé les dogmes scientifiques que l'on croyait les plus solides. D'une part, l'impossibilité de la transmutation des métaux, d'autre part, les postulats fondamentaux de la mécanique. Peut-être s'est-on trop hâté de considérer ces nouveautés comme définitivement établies et de briser nos idoles d'hier. Peut-être conviendrait-il, avant de prendre parti, d'attendre des expériences plus nombreuses et plus probantes. Il n'en est pas moins nécessaire dès aujourd'hui de connaître les doctrines nouvelles et les arguments déjà très sérieux sur lesquels elles s'appuient. Rappelons d'abord en quelques mots en quoi consistent ces principes. A. Le mouvement d'un point matériel isolé est soustrait à toute force extérieure est rectiligne et uniforme. C'est le principe d'inertie, pas d'accélération sans force. B. L'accélération d'un point mobile à même direction que la résultante de toutes les forces auxquelles ce point est soumis, elle est égale au quotient de cette résultante par un coefficient appelé masse du point mobile. La masse d'un point mobile ainsi définie est une constante. Elle ne dépend pas de la vitesse acquise par ce point. Elle est la même si la force étant parallèle à cette vitesse tend seulement à accélérer ou à retarder le mouvement du point, ou si, au contraire, étant perpendiculaire à cette vitesse, elle tend à faire dévier le mouvement vers la droite ou vers la gauche, c'est-à-dire à courber la trajectoire. C. Toutes les forces subies par un point matériel proviennent de l'action d'autres points matériels. Elles ne dépendent que des positions et des vitesses relatives de ces différents points matériels. En combinant les deux principes, B et C, on arrive au principe du mouvement relatif, en vertu duquel les lois du mouvement d'un système sont les mêmes, soit que l'on rapporte ce système à des axes fixes, soit qu'on le rapporte à des axes mobiles, animés d'un mouvement de translation rectiligne et uniforme. De sorte qu'il est impossible de distinguer le mouvement absolu d'un mouvement relatif par rapport à de pareils axes mobiles. D. Si un point matériel A agit sur un autre point matériel B, le corps B réagit sur A et ces deux actions sont deux forces égales et directement opposées. C'est le principe de l'action et de la réaction, ou plus brièvement, le principe de la réaction. Les observations astronomiques, les phénomènes physiques les plus habituels, semblent avoir apporté à ces principes une confirmation complète, constante et très précise. C'est vrai, dit-on maintenant, mais c'est parce qu'on n'a jamais opéré qu'avec de faibles vitesses. Mercure, par exemple, qui est la planète la plus rapide, ne fait guère que 100 km à la seconde. Cet astre se comporterait-il de la même manière s'il allait 1000 fois plus vite? On voit qu'il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. Quels que puissent être les progrès de l'automobilisme, il s'écoulera encore longtemps avant qu'on doive renoncer à appliquer à nos machines les principes classiques de la dynamique. Comment donc est-on parvenu à réaliser des vitesses 1000 fois plus grandes que celles de Mercure, égales par exemple au dixième et au tiers de la vitesse de la lumière, ou se rapprochant plus encore de cette vitesse? C'est à l'aide des rayons cathodiques et des rayons du radium. On sait que le radium émet trois sortes de rayons, que l'on désigne par les trois lettres grecques alpha, bêta, gamma. Dans ce qui va suivre, sauf mention expresse du contraire, il s'agira toujours des rayons bêta, qui sont analogues aux rayons cathodiques. Après la découverte des rayons cathodiques, deux théories se trouvèrent en présence. Crookes attribuait les phénomènes à un véritable bombardement moléculaire. Hertz à des ondulations particulières de l'éther. C'était un renouvellement du débat qui avait divisé les physiciens il y a un siècle à propos de la lumière. Crookes reprenait la théorie de l'émission, abandonnée pour la lumière. Hertz tenait pour la théorie ondulatoire. L'effet semble donner raison à Crookes. On a reconnu, en premier lieu, que les rayons cathodiques transportent avec eux une charge électrique négative. Ils sont déviés par un champ magnétique et par un champ électrique. Et ces déviations sont précisément celles que produiraient ces mêmes champs sur des projectiles animés d'une très grande vitesse et fortement chargés d'électricité. Ces deux déviations dépendent de deux quantités. La vitesse, d'une part, et le rapport de la charge électrique du projectile à sa masse, d'autre part. On ne peut connaître la valeur absolue de cette masse, ni celle de la charge, mais seulement leur rapport. Il est clair en effet que si l'on double à la fois la charge et la masse, sans changer la vitesse, on doublera la force qui tente à dévier le projectile, mais comme sa masse est également doublée, l'accélération et la déviation observables ne seront pas changés. L'observation des deux déviations nous fournira donc deux équations pour déterminer ces deux inconnus. On trouve une vitesse de 10 000 à 30 000 km par seconde. Quant au rapport de la masse, de la charge à la masse, il est très grand. On peut le comparer au rapport correspondant en ce qui concerne l'ion d'hydrogène dans l'électrolyse. On trouve alors qu'un projectile cathodique comporte environ 1000 fois plus d'électricité que n'en transporterait une masse d'hydrogène dans un électrolyte. Pour confirmer ces vues, il faudrait une mesure directe de cette vitesse que l'on comparerait avec la vitesse ainsi calculée. Des expériences anciennes de Thomson avaient donné des résultats plus de 100 fois trop faibles, mais elles étaient sujettes à certaines causes d'erreur. La question a été reprise par Wishart dans un dispositif où l'on utilise des oscillations hertziennes. On a trouvé des résultats concordants avec la théorie, au moins comme ordre de grandeur. Il y aurait un grand intérêt à reprendre cette expérience. Quoi qu'il en soit, la théorie des ondulations paraît impuissante à rendre compte de cet ensemble de faits. Les mêmes calculs faits pour les rayons bêta du radium ont donné des vitesses encore plus considérables, 100 000, 200 000 km ou plus encore. Ces vitesses dépassent de beaucoup toutes celles que nous connaissions. La lumière, il est vrai, on le sait depuis longtemps, fait 300 000 km par seconde, mais elle n'est pas un transport de matière. Tandis que, si l'on adopte la théorie de l'émission pour les rayons cathodiques, il y aurait des molécules matérielles réellement animé des vitesses en question. Il convient de rechercher si les lois ordinaires de la mécanique leur sont encore applicables. Masse longitudinale et masse transversale. On sait que les courants électriques donnent lieu au phénomène d'induction, en particulier à la self-induction. Quand un courant croît, il se développe une force électromotrice de self-induction qui tend à s'opposer au courant. Au contraire, quand le courant décroît, la force électromotrice de self-induction tend à maintenir le courant. La self-induction s'oppose donc à toute variation de l'intensité du courant, de même qu'en mécanique, l'inertie d'un corps s'oppose à toute variation de sa vitesse. La self-induction est une véritable inertie. Tout se passe comme si le courant ne pouvait s'établir sans mettre en mouvement l'éther environnant, et comme si l'inertie de cet éther tendait en conséquence à maintenir constante l'intensité de ce courant. Il faudrait vaincre cette inertie pour établir le courant, et il faudrait la vaincre encore pour la faire cesser. Un rayon cathodique, qui est une pluie de projectiles chargés d'électricité négative, peut être assimilé à un courant. Sans doute, ce courant diffère au premier abord tout au moins des courants de conduction ordinaire où la matière est immobile et où l'électricité circule à travers la matière. C'est un courant de convection, où l'électricité attachée à un véhicule matériel est emportée par le mouvement de ce véhicule. Mais Rowland a démontré que les courants de convection produisent les mêmes effets magnétiques que les courants de conduction. Ils doivent produire eux aussi les mêmes effets d'induction. D'abord, s'il n'en était pas ainsi, le principe de la conservation de l'énergie serait violé. D'ailleurs, Crémieux et Pender ont employé une méthode où l'on mettait en évidence directement ces effets d'induction. Si la vitesse d'un corpuscule cathodique vient à varier, l'intensité du courant correspondant variera également et il se développera des effets de self-induction qui tendront à s'opposer à cette variation. Ces corpuscules doivent donc posséder une double inertie, leur inertie propre d'abord et l'inertie apparente due à la self-induction qui produit les mêmes effets. Ils auront donc une masse totale apparente, composée de leur masse réelle et d'une masse fictive électromagnétique. Le calcul montre que cette masse fictive varie avec la vitesse et que la force d'inertie de self-induction n'est pas la même quand la vitesse du projectile s'accélère ou se ralentit, ou bien quand elle est déviée. Il en est donc de même de la force d'inertie apparente totale. La masse totale apparente n'est donc pas la même quand la force réelle appliquée au corpuscule est parallèle à sa vitesse et tend à accélérer le mouvement, ou bien quand elle est perpendiculaire à cette vitesse et tend à en faire varier la direction. Il faut donc distinguer la masse totale longitudinale et la masse totale transversale. Ces deux masses totales dépendent d'ailleurs de la vitesse. Voilà ce qui résulte des travaux théoriques d'Abraham. Dans les mesures dont nous parlions au chapitre précédent, qu'est-ce qu'on détermine en mesurant les deux déviations? C'est la vitesse d'une part, et d'autre part, le rapport de la charge à la masse transversale totale. Comment, dans ces conditions, faire, dans cette masse totale, la part de la masse réelle et celle de la masse fictive électromagnétique? Si l'on n'avait que les rayons cathodiques proprement dit, il n'y faudrait pas songer. Mais heureusement, on a les rayons du radium, qui, nous l'avons vu, sont notablement plus rapides. Ces rayons ne sont pas tous identiques et ne se comportent pas de la même manière sous l'action d'un champ électrique et magnétique. On trouve que la déviation électrique est fonction de la déviation magnétique. Et l'on peut, en recevant sur une plaque sensible des rayons du radium, qui ont subi l'action des deux champs, photographier la courbe qui représente la relation entre ces deux déviations. C'est ce qu'a fait Kaufmann, qui en a déduit la relation entre la vitesse et le rapport de la charge à la masse apparente totale, rapport que nous appellerons epsilon. On pourrait supposer qu'il existe plusieurs espèces de rayons caractérisés chacun par une vitesse déterminée, par une charge déterminée et par une masse déterminée. Mais cette hypothèse est peu vraisemblable. Pour quelle raison, en effet, tous les corpuscules de même masse prendraient-ils toujours la même vitesse? Il est plus naturel de supposer que la charge ainsi que la masse réelle sont les mêmes pour tous les projectiles et que ceux-ci ne diffèrent que par leur vitesse. Si le rapport epsilon est fonction de la vitesse, ce n'est pas parce que la masse réelle varie avec cette vitesse, mais comme la masse fictive électromagnétique dépend de cette vitesse, la masse totale apparente, seule observable, doit en dépendre, bien que la masse réelle n'en dépende pas et soit constante. Les calculs d'Abraham nous font connaître la loi suivant laquelle la masse fictive varie en fonction de la vitesse. L'expérience de Kaufmann nous fait connaître la loi de variation de la masse totale. La comparaison de ces deux lois nous permettra donc de déterminer le rapport de la masse réelle à la masse totale. Telle est la méthode dont s'est servi Kaufmann pour déterminer ce rapport. Le résultat est bien surprenant. La masse réelle est nulle. On s'est trouvé ainsi conduit à des conceptions tout à fait inattendues. On a étendu à tous les corps ce qu'on avait démontré que pour les corpuscules cathodiques. Ce que nous appelons masse ne serait qu'une apparence. Toute inertie serait d'origine électromagnétique. Mais alors, la masse ne serait plus constante, elle augmenterait avec la vitesse, sensiblement constante pour des vitesses pouvant aller jusque 1000 km par seconde, elle croîtrait ensuite et deviendrait infinie pour la vitesse de la lumière. La masse transversale ne serait plus égale à la masse longitudinale, elle serait seulement à peu près égale si la vitesse n'est pas trop grande. Le principe B de la mécanique ne serait plus vrai. Les rayons canaux. Au point où nous en sommes, cette conclusion peut sembler prématurée. Peut-on appliquer à la matière tout entière ce qui n'a été établi que pour ces corpuscules si légers qui ne sont qu'une émanation de la matière et peut-être pas de la vraie matière? Mais avant d'aborder cette question, il est nécessaire de dire un mot d'une autre sorte de rayon. Je veux parler des rayons canaux, les Kanalstrahlen de Goldstein. La cathode, en même temps que les rayons cathodiques chargés d'électricité négative, émet des rayons canaux chargés d'électricité positive. En général, ces rayons canaux, n'étant pas repoussés par la cathode, restent confinés dans le voisinage immédiat de cette cathode, où ils constituent la couche chamois, qu'il n'est pas très aisé d'apercevoir. Mais si la cathode est percée de trous et si elle obstrue presque complètement le tube, les rayons canaux vont se propager en arrière de la cathode, dans le sens opposé à celui des rayons cathodiques, et il deviendra possible de les étudier. C'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence leur charge positive et montrer que les déviations magnétiques et électriques existent encore, comme pour les rayons cathodiques, mais sont beaucoup plus faibles. Le radium émet également des rayons analogues aux rayons canaux et relativement très absorbables, qu'on appelle les rayons alpha. On peut, comme pour les rayons cathodiques, mesurer les deux déviations et en déduire la vitesse et le rapport epsilon. Les résultats sont moins constants que pour les rayons cathodiques, mais la vitesse est plus faible, ainsi que le rapport epsilon. Les corpuscules positifs sont moins chargés que les corpuscules négatifs ou, ce qui est plus naturel, on suppose que les charges sont égales et de signes contraires. Les corpuscules positifs sont beaucoup plus gros. Ces corpuscules chargés les uns positivement et les autres négativement ont reçu le nom d'électrons. La théorie de Lorentz. Mais les électrons ne manifestent pas seulement leur existence dans ces rayons où ils nous apparaissent animés de vitesse énorme. Nous allons les voir dans des rôles bien différents, et ce sont eux qui nous rendront compte des principaux phénomènes de l'optique et de l'électricité. La brillante synthèse dont nous allons dire un mot est due à Lorentz. La matière est tout entière formée d'électrons portant des charges énormes. Et si elle nous semble neutre, c'est que les charges de signes contraires de ces électrons se compensent. On peut se représenter par exemple une sorte de système solaire formé d'un gros électron positif autour duquel graviteraient de nombreuses petites planètes qui seraient des électrons négatifs attirés par l'électricité de non contraire qui charge l'électron central. Les charges négatives de ces planètes compenseraient la charge positive de ce soleil de sorte que la somme algébrique de toutes ces charges serait nulle. Tous ces électrons baigneraient dans l'éther. L'éther serait partout identique à lui-même et les perturbations s'y propageraient suivant les mêmes lois que la lumière ou les oscillations hertziennes dans le vide. En dehors des électrons et de l'éther, il n'y aurait rien. Quand une onde lumineuse pénètre dans une partie de l'éther, où les électrons seraient nombreux, ces électrons se mettraient en mouvement sous l'influence de la perturbation de l'éther, et ils réagiraient ensuite sur l'éther. C'est ainsi que s'expliquerait la réfraction, la dispersion, la double réfraction et l'absorption. De même, si un électron se mettait en mouvement pour une cause quelconque, il troublerait l'éther autour de lui et donnerait naissance à des ondes lumineuses, ce qui expliquerait l'émission de la lumière par les corps incandescents. Dans certains corps, les métaux par exemple, nous aurions des électrons immobiles entre lesquels circuleraient des électrons mobiles, jouissant d'une entière liberté, sauf celle de sortir du corps métallique et de franchir la surface qui le sépare du vide extérieur ou de l'air, ou de tout autre corps non métallique. Ces électrons mobiles se comportent alors à l'intérieur du corps métallique, comme le font, d'après la théorie cinétique des gaz, les molécules d'un gaz à l'intérieur du vase où ce gaz est renfermé. Mais sous l'influence d'une différence de potentiel, les électrons mobiles négatifs tendraient à aller de tous d'un côté et les électrons mobiles positifs de l'autre. C'est ce qui se produirait les courants électriques. Et c'est pour cela que ces corps seraient conducteurs. D'autre part, les vitesses de nos électrons seraient d'autant plus grandes que la température serait plus élevée si nous acceptons l'assimilation avec la théorie cinétique des gaz. Quand un de ces électrons mobiles rencontrerait la surface du corps métallique, surface qu'il ne peut franchir, il se réfléchirait alors comme une bille de billard qui a touché la bande, et sa vitesse subirait un brusque changement de direction. Mais quand un électron change de direction, ainsi que nous le verrons plus loin, il devient la source d'une onde lumineuse, et c'est pour cela que les métaux chauds sont incandescents. Dans d'autres corps, les diélectriques et les corps transparents, les électrons mobiles jouissent d'une liberté beaucoup moins grande. Ils restent comme attachés à des électrons fixes qui les attirent. Plus ils s'en éloignent, plus cette attraction devient grande et tend à les ramener en arrière. Ils ne peuvent donc subir que de petits écarts. Ils ne peuvent plus circuler, mais seulement osciller autour de leur position moyenne. C'est pour cette raison que ces corps ne seraient pas conducteurs. Ils seraient d'ailleurs, le plus souvent, transparents, et ils seraient réfringents, parce que les vibrations lumineuses se communiqueraient aux électrons mobiles, susceptibles d'oscillation, et qu'il en résulterait une perturbation. Je ne puis donner ici le détail des calculs, je me bornerai à dire que cette théorie rend compte de tous les phénomènes connus et qu'elle en a fait prévoir de nouveaux, tel le phénomène de Zeeman. Conséquences mécaniques. Maintenant, nous pouvons envisager deux hypothèses. Premièrement, les électrons positifs possèdent une masse réelle beaucoup plus grande que leur masse fictive électromagnétique. Les électrons négatifs sont seuls dépourvus de masse réelle. On pourrait même supposer qu'en dehors des électrons des deux signes, il y a des atomes neutres qui n'ont plus d'autre masse que leur masse réelle. Dans ce cas, la mécanique n'est pas atteinte, nous n'avons pas besoin de toucher à ces lois, la masse réelle est constante, seulement les mouvements sont troublés par les effets de self-induction, et ce qu'on a toujours su, ces perturbations sont d'ailleurs à peu près négligeables, sauf pour les électrons négatifs, qui, n'ayant pas de masse réelle, ne sont pas de la vraie matière. Mais il y a un autre point de vue. On peut supposer qu'il n'y a pas d'atomes neutres et que les électrons positifs sont dépourvus de masse réelle au même titre que les électrons négatifs. Mais alors, la masse réelle s'évanouissant, ou bien le mot « masse » n'aura plus de sens, ou bien il faudra qu'il désigne la masse fictive électromagnétique. Dans ce cas, la masse ne sera plus constante, la masse transversale ne sera plus égale à la masse longitudinale, les principes de la mécanique seront renversés. Un mot d'explication d'abord. Nous avons dit que, pour une même charge, la masse totale d'un électron positif est beaucoup plus grande que celle d'un électron négatif. parce que l'électron positif a, outre sa masse fictive, une masse réelle considérable, ce qui nous ramènerait à la première hypothèse. Mais on peut admettre également que la masse réelle est nulle, pour les uns comme pour les autres, mais que la masse fictive de l'électron positif est beaucoup plus grande, parce que cet électron est beaucoup plus petit. Je dis bien beaucoup plus petit. Et en effet, dans cette hypothèse, l'inertie est d'origine exclusivement électromagnétique, elle se réduit à l'inertie de l'éther. Les électrons ne sont plus rien par eux-mêmes, ils sont seulement des trous dans l'éther, et autour desquels s'agite l'éther. Plus ces trous sont petits, et plus il y aura d'éther, plus par conséquent l'inertie de l'éther sera grande. Comment décider entre ces deux hypothèses ? En opérant sur les rayons canaux, comme Kaufmann l'a fait sur les rayons bêta, c'est impossible. La vitesse de ces rayons est beaucoup trop faible. Chacun devra-t-il donc se décider d'après son tempérament ? Les conservateurs allant d'un côté et les amis du nouveau de l'autre ? Peut-être. Et pour bien faire comprendre les arguments des novateurs, il faut faire intervenir d'autres considérations.